Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 3 décembre 2025. À nouveau, une émission inopinée, mais il y a quelques informations intéressantes aujourd'hui, notamment la mise à jour d'Ethereum Fusaka qui aura lieu au cours de cette journée. Donc on va voir ce que ça pourra impliquer et surtout une belle mise à jour puisque c'est la plus grosse qu'on ait eue depuis Pectra. En attendant, on a un BTC autour de 93 000 $ en rebond de 7% sur les dernières 24 heures. 9% pour Ethereum à 3050, on a 13% pour Solana, 12% pour Dogecoin, 15% pour DA Cardano, 10% pour BCH, 20% pour Chainlink en daily. Après, bon, c'est dans la mesure de ce qu'on avait dévissé précédemment, donc comme d'habitude, ne nous excitons pas trop vite. 10% pour Hyperliquid, 11% pour Stellar, 32-33% pour Sui. On a 11% également pour Shiba Inu, ainsi que Hedera Hashgraph qui est autour de 13%. Uniswap Polkadot, pareil, 12-13%, 15% pour AAV qui reprend proche des 200 $, donc un très très beau rebond pour AAV pour le coup, 12% pour Taobit Tensor, 19% pour Etena. C'est également le cas de PP, 40e place, 2 milliards de capitalisation pour les mêmes coins, Pumpfun juste derrière, 16%, pareil 2 milliards de cap. Ondo plus 12%, plus 13,49% pour Arbitrum et on clôture le top 50 avec Official Trump, VeChain, Atom Cosmos à 1,16 milliards de capitalisation, 2,40 $ pour Atom ce jour. Au niveau de l'action de prêt en 4 heures, donc c'est un peu un short squeeze qui s'est déroulé puisque on en faisait part dans l'émission d'hier. On commençait à avoir des divergences sur le court terme et surtout à partir du moment où tout le monde est en train de shorter proche d'un point d'intérêt voire d'un support. Bien entendu, ça a tendance à déclencher un peu ce genre de contre-appel, le tout dans le fear voire l'extrême fear, la peur extrême peur. Donc aujourd'hui, on est pile poil où on se doit pour ce début de mois de décembre. Mais la question qui va rester, c'est est-ce qu'on aura les reins assez solides pour aller chercher cette zone élargie des 100 à 102 000 $ courant décembre. Bonne nouvelle pour les aficionados de X et des infos à chaud, on est de retour. Alors ça va être géré par un community manager. Donc pour ma part, je n'aurai quasiment plus aucune interaction avec ce réseau social. Vous êtes les bienvenus du côté du Discord qui est tout à fait gratuit et sur lequel on échange au quotidien. J'essaierai de penser de vous mettre le lien puisque vous êtes souvent beaucoup à nous réclamer le lien du Discord. En attendant, on part avec Barchart. Donc c'était l'information de ces derniers jours et les taux longs au Japon notamment qui viennent d'atteindre 3,4 pour le 30 ans et on avait vu hier qu'on était sur le 2 ans déjà à 1 point. Donc par rapport à cet argent à taux zéro qu'on a eu pendant très très longtemps, eh bien ça a tendance un petit peu à crisper les marchés. Bob Lucas qui nous faisait part que on devrait avoir un cycle peut-être qui nous fera un bear market moins hard que ce qu'on a connu précédemment, avec un point bas pour lui si ça se déroulait comme ça dans un grand range, qui pourrait venir chercher quelque part autour de 60 000 $, peut-être un peu en dessous, les fameux 55 000. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que petit à petit, on aura la moyenne mobile 200 semaines qui va venir autour de cette zone des 60 000 d'ici à début 2026. Et par la suite, peut-être on pourra relancer la machine justement si on a un semblant de cyclicité, mine de rien, qui se joint à tout ça au cours de 2027-2028. Trendspider et Apple, donc, qui mettent en avant que le plus grand produit d'Apple, ça n'est pas l'iPhone au long terme, c'est les buybacks. Et ça également, on en a parlé hier. D'ailleurs, c'est marrant en ce moment, on est plutôt pas mal aligné avec ce qui est en train de se passer un peu multimarché, mais d'un autre côté, c'est un peu la logique qui prime au niveau des investisseurs, des dividendes, etc. Apple, au long terme, on a beau, en effet, ces dernières années, commencer à voir que petit à petit, les chiffres sont en déclin léger. C'est pour l'instant pas une catastrophe, bien entendu. Ce qui soutient totalement le fait et la confiance des actionnaires, c'est ça, c'est le rachat d'actions par Apple, le fait qu'ils aient énormément de cash, ce qui en fait aujourd'hui une société valorisée à 4 200 000 $, c'est complètement fou. On a Google également au rang des sociétés les plus profitables, puisqu'elle est même devant Apple, avec ce top 3 qui est composé donc de Alphabet, Google, Apple, Microsoft, et juste derrière, 4e place, on a Nvidia, la Saudi Aramco à la 5e, Amazon 6e, Berkshire Hathaway 7e, Meta 8e, JP Morgan Chase, la plus grosse banque des États-Unis 9e, et enfin à la 10e place, TSMC, qui est un founder donc au niveau des chipsets et qui permet notamment d'alimenter la super bulle IA et Nvidia. La grosse mise à jour donc de Fusaka aujourd'hui pour Ethereum, j'y reviens dans un instant puisque également je voulais faire le point sur le DCA à coût de 100 $ par semaine. Alors on a fait une petite erreur, on a mis 150 $ ce dimanche, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 350 $ injectés au lieu de 300 et on est en positif de 4% après avoir été la semaine dernière à moins 5,5. Qu'induit donc aujourd'hui cette mise à jour Fusaka pour Ethereum? Le but, c'est de rendre le réseau plus rapide, efficace et en augmentant considérablement le nombre de transactions par seconde. Quatre grands axes ont été mis en avant pour cette update. Premièrement, le peer DAS, c'est les validateurs qui n'ont plus besoin de télécharger toutes les datas d'un bloc ou d'un blob pour vérifier la transaction tout simplement. Donc c'est une réduction majeure de la quantité de données utilisées et donc du poids pour exécuter un nœud. Merkle Trees, qui est une amélioration des Merkle Trees, une vérification via des preuves plus compactes. Le gas limit qui passe de 45-60 millions à 150 millions. Et enfin, l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine et les EIP, c'est-à-dire les propositions qui sont vraiment tournées sur cette Fusaka update, sur les optimisations, avec la gestion des contrats intelligents, l'efficience et la compatibilité multistandard. Donc en résumé, cette mise à jour qui est la plus importante depuis un bon moment et qui est propulsée aujourd'hui et permet d'augmenter considérablement la capacité du réseau avec un Ethereum qui sera plus rapide, moins coûteux, plus scalable et mieux optimisé entre la communication layer 1 et les différents layer 2. Le coût de mining moyen sur Bitcoin des sociétés spécialisées est actuellement de 74 600 et on peut constater que par exemple un Hut 8 Mining qui est localisé essentiellement au Canada et au Texas aux États-Unis mine actuellement pour le plus cher 130 000 $, tandis que Iron aurait un coût de revient pour un Bitcoin entier autour de 46 500 $. Donc la moyenne aujourd'hui se trouve à 74 600, sachant que ça, comme d'habitude, voilà, c'est les chiffres officiels. Officieusement, on doit être plutôt, je pense, autour d'une moyenne qui se situerait aujourd'hui sensiblement autour de 50 000 $-55 000 $. Mais comme d'habitude, voilà, on prend les chiffres qu'on veut bien nous communiquer, tout en se disant qu'effectivement, on a deux zones importantes là pour le marché d'un point de vue du coût intrinsèque de minage du Bitcoin, 50-55 000 et autour de 75 000. Et c'est marrant puisque on retrouve à nouveau nos supports qu'on peut mesurer au niveau de l'analyse technique, au niveau de l'analyse on-chain. Donc ça n'est pas rien en termes de comportement des différents participants au marché. On clôturera avec ce chart, comme disait Income Charts, c'est le most annoying et qui a été le plus utilisé de tous les temps, c'est le psychologie cheat sheet de Wall Street avec les différentes phases. Et finalement, on voit que systématiquement, c'est toujours d'histoire d'humanité et d'histoire de finance, le même motif qui se passe. On a des tendances comme ça pendant longtemps à être un peu en dépression quand les cours sont à plat et quand une bulle précédemment a éclaté. Ensuite, on a le recovery avec les espoirs, l'optimisme, la croyance, l'excitation, l'euphorie totale. Et par la suite, on a la phase de distribution avec un genre de complaisance qui se met en cours, mais j'appellerais ça le déni au moment où on fait souvent ce dead cat bounce, c'est-à-dire le premier grand rebond avec beaucoup de volatilité. Bien que sur ce cycle, en effet, on n'ait pas connu l'euphorie des particuliers, blablabla. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on a un marché aussi qui a fondamentalement évolué vers quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé. Donc peut-être qu'on n'aura plus ce type de comportement, tout comme ça alimente et accrédite peut-être la thèse de ceux qui pensent que le fameux cycle de 4 ans a sacrément pris du plomb dans l'aile. Donc tout ça, derrière, découle sur beaucoup de colère, d'anxiété, de déni, de panique, de capitulation, pour par la suite, dans cette phase d'aplat qu'on pourrait qualifier de dépression, avoir enfin les choses qui se posent, la poussière qui retombe et les différents participants au marché qui font leurs emplettes pour les années suivantes. En attendant, 3111 milliards ce matin, on reprend les 3000. La semaine commençait mal, mais elle n'est pas censée terminer si mal. En tout cas, c'est ce que nous dit le marché pour l'instant. Peut-être aussi tous ces stimulus qui viennent du côté des États-Unis sont plutôt positifs pour l'économie. Ça commence à spéculer également sur le nouveau président de la Fed de courant 2026 avec Donald Trump qui pourrait être aux commandes pour mettre quelqu'un de très pro-business et surtout de très pro en baisse les taux très rapidement et très fort. Donc tout ceci aura bien entendu un coût et un impact pour les marchés positifs à court et moyen terme si c'est cela qui se passe, un genre de fuite en avant comme d'habitude, négatif au moyen long terme pour l'inflation et pour le rebond complètement fou qu'ils vont se prendre dans les dents derrière. Mais peut-être que Donald Trump ne joue justement que les quelques années de son mandat et que ce qui viendra après, il en a pas grand chose à carrer, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, c'est avec ça qu'il faut composer et nous, le rebond pourrait nous conduire autour de 3330 milliards, c'est-à-dire la moyenne mobile 50, ça n'a pas changé. On a la dominance des stablecoin qui a rencontré de la résistance autour de la moyenne mobile 200 et de 0,09, donc en termes de ratio. Sur ce rapport par rapport au crypto total, le crypto total 2 des alt bataille en backtest quelque part avec un support perdu autour de 1250 à 1270 milliards, sachant qu'on a la moyenne mobile 50 à 1300 milliards. Donc tout ce qu'on est en train de faire et qu'on pourrait faire jusqu'à 100 000 sur Bitcoin au cours là de décembre, c'est du rebond technique. C'est pas on est en train de repartir sur la Lune, c'est pas premier trimestre 2026, on est à 150 000. Comme d'habitude, je déteste insulter l'avenir, ça peut tout à fait arriver, peut-être qu'il y a 2, 3, 4, 5% de chances que ce genre de scénario se produise, mais en attendant, quand on regarde structurellement parlant le temps long, le MACD, que ça soit en hebdo, en mensuel, le RSI, etc., on est rentré désormais dans une cassure de structure haussière qu'on a eu ici depuis les points bas de novembre 2022 jusqu'au point haut de octobre-novembre 2025, donc c'est à prendre en considération, le court terme dégradé. C'est en court terme qui nous offre un rebond qui très certainement pourra nous conduire, comme on l'a dit aussi ces dernières semaines, autour de 100 000. Ça restera un rebond technique et je pense que les vendeurs, au plus on s'approchera des 100 000, au plus ils vont montrer les dents. Et c'est à partir de là où la bataille des 100 000, entre guillemets, fera rage et où on verra qui fait quoi et si on arrive justement à dépasser les vendeurs sur cette zone ou si le marché rentre dans une capitulation avec, comme on l'a vu tout à l'heure, une moyenne mobile 200 qui est à ce jour à 56 000 dollars. Il est à noter que la Bitcoin dominance reste stable malgré le move à court terme autour de 60%, légèrement en dessous, tandis que Ethereum reprend du poil de la bête sur cette mise à jour Fujaka. Donc on va voir ce que ça peut donner. 3100, on a le package 3050, 3075, moyenne mobile 100, moyenne mobile 50. Est-ce qu'on aura le jus pour aller chercher les 4000 sur Ether? Parce qu'entre temps, bon, on peut se dire qu'il y a une médiane de range autour de 3004, mais finalement on est dans un grand range pour Ethereum désormais. Donc c'est plutôt cool de le voir réagir. On a également ETH BTC qui est en train de se stabiliser depuis pas mal de temps. Mais comme d'habitude, voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout avoir cette vision, cette profondeur de se dire, ou cette prudence quelque part, que potentiellement, oui, en 2026, ça peut continuer de se dégrader sur les cryptos et on veut pas justement rentrer dans le psychologie shit de Wall Street, dans le déni absolu, dans la complaisance, à se dire, je me laisse crever et couler avec mon bag. On n'est pas du tout comme ça ici. Le dollar américain qui continue son léger recul depuis les 100 points, on est à 99 ce matin. Le futur du S&P 500 devrait réouvrir dans le vert, mais on est à quelques encablures de l'ATH. Donc, est-ce que là aussi, on a réellement du jus pour aller faire des nouveaux ATH au-delà des 7000 points pour le S&P et le Nasdaq aller chercher au-delà de 26 400 points que constitue pour l'instant, pareil, son ATH. On est tellement haut que à chaque fois qu'on fait une petite marche supplémentaire, on se demande quand est-ce que ça va réellement décrocher. C'est plutôt ça le problème. Le gold de 4200 dollars l'once, donc ça sera ben, tout simplement dépendant de l'actualité à court et moyen terme. Je pense que dans tous les cas, le gold a déjà réalisé son grand bull run ici. Il y en a qui pensent que c'est que la moitié du bull run, un peu comme finalement le débat qu'il y a actuellement sur les réseaux sociaux entre bulle de l'IA ou pas. Voilà. Est-ce qu'on est au top de la bulle de l'IA? Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est à la moitié? C'est finalement de ça hein, qu'on essaie de jauger, nous, de notre côté en tant qu'investisseurs avisés. Au niveau des actions américaines, pas de grand décalage. Il faudra voir à la réouverture cet après-midi. Côté actions françaises, pareil, on est relativement à plat pour l'instant. Comme on l'avait vu, donc, ces derniers jours, on avait eu un beau rebond sur BNP. Je crois que LVMH aussi était pas dégueu ces temps-ci, hein, 631 euros. On était en provenance quand même de 441. Donc ça aussi, les actions, que ça soit françaises, américaines, etc., il y a toujours sur les gros dossiers des zones clés comme ça. On revient chercher un support qu'on avait travaillé en termes de résistance en janvier 2020. Pour LVMH, on était quand même sur une baisse substantielle d'environ moins 51%. Donc à partir du moment où il y a des boîtes comme ça qui malgré tout tournent plutôt pas mal et sont punis pendant un certain temps par le marché, il y a quand même de temps en temps des opportunités à venir chercher. Le truc, c'est qu'il ne faut pas être complètement déconnecté pendant un temps justement où on commence à être dégoûté pendant la descente, des phases où on va ne plus en entendre parler et où finalement c'est facile pour nous en tant qu'investisseurs de passer à côté. Tout comme c'était très difficile de passer à côté quand on était autour de 900 euros pour LVMH et que tout le monde sur les réseaux sociaux était en train de vous dire que c'était l'action du siècle, qu'il fallait rentrer, qu'on allait à 1500-2000 euros en ligne droite. Donc c'est vraiment de la psychologie inversée, mais je peux vous assurer que c'est cet effort qu'il faut fournir lors des bear markets, entre guillemets, qui vous servira énormément pour choper justement les meilleures opportunités. On a Chainlink qui a tenu la moyenne mobile 200, mais le chart quand même m'inspire pas énormément confiance. On a tenu à deux reprises autour de 11,65$, on a à 14,40$. Toutes les moyennes mobiles sont paquées au-dessus, sont à plat entre 16 et 20$. On a un point pivot également autour de 22-23. Je vais me l'enlever pour l'instant parce que pareil, voilà, je vois pas fondamentalement ce que l'action de prix pourrait nous donner ici pour Chainlink. Ça reste un des dossiers les plus sérieux et un des meilleurs élèves de la cryptosphère, mais pour l'instant, en termes de pure analyse technique, voilà, on n'y est pas encore tout à fait. On a Sui qui, lui, a tenu autour de 1,31$, on a 1,76$. Il pourrait revenir sur toute cette zone 1,98$ à 2,20$, jusque même peut-être 2,35$ si jamais le rebond technique se poursuit. Pareil, grosse cassure structurelle poursuit, donc tout ce qui se passera jusque-là est malheureusement pour du court et moyen terme de simples rebonds techniques et des backtests de zones de cassure par le bas. Il y en a un que je voulais passer aujourd'hui, bien que ça soit pas fondamentalement celui dont on parle le plus souvent sur la chaîne, c'est XRP. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté qu'au niveau des entrées nettes, au niveau des ETF, depuis que XRP est proposé via les ETF, on a du 20, du 30, du 50 millions par jour qui rentrent sur XRP, même quand c'était rouge sur Bitcoin et Ethereum. Donc le tout sur support ici autour de 2$ qui a été défendu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup spéculatif pur et dur à aller jouer sur XRP qui, comme d'habitude, d'un point de vue psychologique, pour les investisseurs qui se réfèrent à ça, on se dit 2$, et bien voilà, on essaie de se projeter, de se dire si un jour XRP vient à je ne sais combien, et bien ça me fera un gros multiple. Bien entendu, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais j'essaie de vous donner aussi la façon con de penser la plupart des investisseurs peu avisés quelque part. Et enfin, le Japon qui est toujours dans cette optique d'avoir une réponse de la BOJ quant aux décisions qu'ils vont avoir pour leurs propres taux. Donc on a des taux qui sont en train de s'envoler et pour l'instant, bon, si en première intention ça a crispé un peu les marchés, ça a l'air de se calmer, on a le VIX qui est redescendu, donc je suppose qu'ils ont quand même tiré les leçons et les conséquences de ce qui s'était passé le fameux 5 août 2024 lorsque le Yen Carry Trade avait purgé je sais plus combien de milliers de milliards en un claquement de doigts en quelques heures. Ça nous avait fait à l'époque un très très beau point d'entrée avant le suivant qui était avril 2025 avec les tarifs de Trump. Mais voilà, pour l'instant, c'est quand même une petite problématique de constater malgré tout que le secteur asiatique et notamment la Chine sont plutôt sur la retenue alors qu'ils étaient en train d'imprimer et d'inonder le marché de liquidités. On a des particuliers qui pour l'instant ont finalement un ressenti qui est assez pessimiste vis-à-vis de la vie de tous les jours et vis-à-vis de l'investissement en tant que tel. Peut-être que ça évoluera positivement, mais même quand on voit du côté européen ou du côté de la France, etc., qu'on commence à nous parler de guerre, de se préparer au pire, qu'on a des déclarations de la Russie, hier je crois Vladimir Poutine qui disait que si l'Europe cherche la guerre, ils seront prêts à répondre ou je ne sais quoi. Voilà, ça crée un climat malgré tout au niveau des particuliers qui n'est pas super réjouissant pour l'avenir, hein, quand bien même peut-être voilà, ce ne sont que des phrases et des palabres. Ça crée une tension qui fait qu'aujourd'hui on évolue dans un monde qui est très polarisé, très crispé, et c'est un peu à l'image de ce qu'on peut observer du côté des réseaux sociaux, et c'est pour ça que non, je ne fais pas mon grand retour sur X, ça restera juste pour vous faire passer quelques informations percutantes au quotidien. Voilà, c'est pas un réseau social qui est fondamentalement axé sur l'humain, je pense, mais qui est axé sur le drama, sur l'agressivité, sur comment je vais faire pour essayer de faire un maximum d'engagement. Et à ce compte-là, je peux vous assurer que l'être humain est très doué pour essayer de trouver un maximum de saloperies, entre guillemets, excusez-moi du terme, pour essayer justement de buzzer ou de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que bah, sur la chaîne, on a toujours essayé de garder cette direction où on essaie, à la manière de ce qu'on propose au niveau de nos investissements ou de la vision qu'on a de l'investissement tout court, de garder une certaine humilité, de garder une certaine humanité aussi au travers de tout ça, puisque c'est notre psychologie pure et dure qui fait que peut-être demain on sera un peu plus gagnant que la majorité, et ensuite voilà, on essaie d'avancer chacun à notre rythme, sachant que bah, comme on en a discuté également souvent, même en tant que créateur de contenu, même en personne qui est là depuis 7-8 ans désormais sur ce marché, et depuis ces dernières années en termes de marché traditionnel, etc., les ETF et tout ce qui va bien, les actions, on a quand même essayé de muscler notre jeu et les métaux précieux. Aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'on se sent arrivé ou quand on se sent au-dessus des autres, ou qu'on a besoin de critiquer un tel ou un tel pour avancer. On essaie de tracer notre petite route en faisant et en refaisant malheureusement des erreurs qui parfois peuvent coûter très très cher au portefeuille. C'est ce qui m'est arrivé notamment sur ce cycle. Mais voilà, c'est des phases qui permettent de renforcer comme ça la compréhension qu'on en a, d'essayer de se remettre en question continuellement, puisque je pense que c'est aussi une belle découverte et un apprentissage de soi-même d'être sur les marchés. Et au long terme, ensuite, je suppose que ceux qui subsistent sont ceux justement qui ont su suffisamment se remettre en question et avoir ce recul et cette humilité nécessaire que nous inculque l'ensemble des marchés. Je vous souhaite une excellente journée. Ce coup-ci, normalement, il n'y aura pas d'autres émissions intermédiaires d'ici ce week-end où on fera le débrief de la semaine. J'espère vivement que Papa BTC va pouvoir nous remontrer les fameux 100K, les famosos autour de la période de Noël, le Santa Claus Rally. Me demandez pas pourquoi ça se passe. La plupart du temps, il y a tendance à avoir de la volatilité à cette période et ça n'est pas apparemment pour l'instant pour nous déplaire. Très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.